Introduction à l'Ancien Testament. Vous avez vu les livres poétiques et la première partie des livres prophétiques en survolant les grands prophètes. Est-ce que c'est exact? L'application de la loi dans le cœur des individus. Fait que vous avez au niveau de Ecclésiaste, où ce que l'homme essaie de regarder, mais comment est-ce que la vie fonctionne sans Dieu? Et finalement, on vient à la conclusion que l'homme a besoin de suivre les commandements de Dieu, suivre la loi. Toutes les autres livres prophétiques, vous avez Job, qui est considéré comme un livre prophétique, où ce que là, on a beaucoup la question de la souffrance. Pourquoi est-ce que Dieu permet à ce qu'un juste souffre? Ensuite, on a été... les livres prophétiques, comme ceux qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des livres qui constituent le rappel et le renforcement de la loi. Alors, les prophètes n'amenaient pas comme une nouvelle connaissance, n'étaient pas là pour amener comme « bon, ben, je vais vous donner une nouvelle loi ». Mais les prophètes étaient là pour rappeler au peuple d'Israël qu'ils devaient obéir la loi et venaient pour les appeler à la repentance parce que Dieu envoyait ses prophètes la plupart du temps parce que son peuple ne suivait plus les commandements de Dieu. Alors, dans cette étude, nous verrons comment ce rôle se manifeste dans Osée, Joël et Amos. Vous allez voir Joël et Amos la semaine prochaine. Moi, je vais me limiter simplement au livre de Osée. Ça se peut que la leçon soit un petit peu plus courte aujourd'hui, parce que Osée, c'est quand même un petit livre, 12 chapitres, tout ça. On va faire un survol. Il y a une possibilité que le cours soit un petit peu plus court, effectivement. Alors, on commence maintenant les 12 derniers livres de l'Ancien Testament, les 12 appelés aujourd'hui les petits prophètes. Pour les Juifs, ces 12 livres-là constituaient un seul livre, le livre des 12. Les 12 prophètes sont donc un seul livre qu'on va regarder en 4 leçons au cours des prochaines semaines. Alors, commençons avec le prophète Osée. Juste simplement pour savoir, combien d'entre vous ont déjà lu au complet le livre d'Osée? Est-ce que c'est un devoir que vous avez à faire? Combien ici l'ont lu, le livre d'Osée, jusqu'à présent? Ah, quand même une petite partie. Déjà lu dans le passé. C'est pas les livres qu'on se souvient le plus. Nécessairement, n'est-ce pas? Parce que c'est souvent des petits livres, fait qu'on a tendance à aller vers le Nouveau Testament, on a tendance à aller vers les grands prophètes, Isaïe en particulièrement, parce qu'on trouve que son lien avec Jésus est quand même particulièrement évident. Les petits prophètes, un petit peu moins des fois. Fait qu'Osée, juste pour vous l'introduire, le thème du livre d'Osée est « Comme un mari prêt à reprendre son épouse infidèle, Dieu révèle son amour pour la nation d'Israël qui est adultère et corrompue. » Je vais vous lire les premiers versets. Moi, ça m'a toujours frappé. Je me souviens, la première fois que j'ai lu Osée quand j'étais jeune, j'avais de la misère à comprendre. Les premiers versets disent « Parole de l'Éternel adressée à Osée, fils de Béri, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda, et durant celui de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël. » Début des paroles de l'Éternel à Osée. Et voici ce que l'Éternel dit à Osée. La première fois qu'il lui dit quelque chose pour être prophète, il lui dit « Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Déjà, ça commence, ça a l'air un petit peu étrange. Moi, je me souviens de ma première réaction quand j'ai lu ce livre-là, c'est comme, oh, OK, Dieu demande à Osée de marier une prostituée et de prendre des enfants de prostitution. D'accord, c'est un petit peu étrange. Alors, on a là un thème. Le thème principal du livre qui va revenir, c'est que Dieu voulait se servir d'Osée, le prophète, comme une image de son amour pour le peuple d'Israël. Alors, Dieu voulait qu'Osée prenne une femme prostituée afin de montrer comment est-ce que Dieu aime sa nation, son pays qui est en train de se prostituer, spirituellement, évidemment. Quand est-ce que ce livre-là a été écrit? Au début du livre, comme on vient de le lire, alors, ça a été écrit au temps d'Ozias, donc environ, Ozias a régné entre 790 et 739, Jotham 750-731, Akaz 735-715 et Ézéchias 735-686. Cela nous place quelque peu avant la chute du royaume du Nord. Alors, Israël était divisé en deux. Le pays d'Israël s'était divisé depuis le règne de Salomon. Alors, on avait 10 tribus, qui étaient les 10 tribus du Nord, qui avaient décidé de se séparer de 2 tribus, qui étaient la tribu de Juda et de Benjamin. Alors, la tribu du Nord, ça faisait plusieurs siècles que les rois étaient tous mauvais, ne suivaient pas la loi de l'Éternel, se prostituaient par des idoles. le peuple du les deux tribus du Sud, qui étaient maintenant le pays de Juda, comme on l'appelait, eux autres avaient eu une lignée de rois fidèles et des rois infidèles. Mais là, on arrive vraiment sur le bord. Dieu est en train d'annoncer qu'il va juger son peuple parce que les 10 tribus du Nord sont infidèles. Prostituent spirituellement, comme je dis, et il va bientôt les déporter. Fait qu'on arrive vraiment proche de cette déportation-là. Alors, l'auteur, qui est l'auteur de ce livre-là, l'auteur est identifié à l'ouverture du livre comme étant Osée, fils de Béeri. Parce qu'on a beaucoup d'informations sur lui, pas tant que ça, à part le fait qu'il s'est marié à une prostituée. On a peu d'informations sur cet homme-là. La structure du livre. Alors, le livre est divisé en 3 grosses sections, comme vous pouvez voir dans vos notes. La première section, c'est vraiment l'image que Osée représente par rapport à l'Éternel. C'est le mariage d'Osée qui représente la relation de Dieu avec Israël. Alors, les 3 premiers chapitres, et si vous allez voir le 3e chapitre, il est très, très, très court. Ces 3 premiers chapitres-là recommandent, ça fait un premier cycle où est-ce que Osée vit le message que Dieu lui a donné de faire. Ensuite, vous avez 2 nouveaux cycles. Un premier cycle de prophétie, du chapitre 4 au chapitre 11, où ce que là est annoncé, l'infidélité d'Israël, un châtiment, l'appel que Dieu fait à son peuple de revenir à lui, qui est typique des livres prophétiques. Les livres prophétiques, vous allez voir, souvent, qu'est-ce qui va être mélangé, c'est que Dieu va juger. Dieu va juger des fois comme le peuple d'Israël. Dans ce livre-là, particulièrement le peuple d'Israël, des fois, ça va être un jugement contre les nations qui sont infidèles. Mais il va toujours avoir un mélange. Dieu va pas se limiter simplement à un jugement, comme si qu'est-ce qui lui plaît, c'est simplement de juger la nation d'Israël. Mais il va mêler avec ça un appel à dire, revenez à moi. Venez, je veux vous fiancer pour toujours. Le 2e cycle de prophétie, qui là, c'est vraiment l'endurcissement d'Israël final, l'inconscience d'Israël, un appel à la repentance et la manifestation de la grâce de Dieu. Alors, ce livre ouvre sur une ouverture où est-ce que Dieu appelle encore les justes, c'est-à-dire « revenez à moi ». Si on regarde le dernier verset, dans les derniers versets, chapitre 14, verset 10, « qui est sage, qu'il comprenne ces choses, que celui qui est intelligent les connaisse. En effet, les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y trébucheront. » Un dernier avertissement où ce qui dit « écoutez-moi, mes voies sont droites, je suis pas là juste pour vous pogner, juste pour vous faire tomber. Non, au contraire, les justes vont pouvoir marcher, c'est vous les méchants qui allez trébucher. » Fait que jusqu'à la fin de son ministère prophétique, Osée rapporte un message de l'Éternel qui est « revenez à moi constamment. » Et ça rentre vraiment dans le thème où ce que Dieu poursuit Israël constamment. Alors, le contexte historique, comme je vous l'ai dit tantôt, entre la séparation du royaume d'Israël à 930 avant Jésus-Christ et sa chute en 722, alors environ 200 ans depuis qu'il s'est séparé des 2 tribus, le royaume du Nord fut gouverné par 4 dynasties différentes. Il y a eu la dynastie de Jéroboam I, qui a eu 2 rois, alors c'est une dynastie très courte. Ensuite, il y a eu la dynastie de Baasha, qui a eu 3 rois. Troisièmement, il y a eu la dynastie d'Omri avec 4 rois, dont le roi Akab, le fameux roi Akab qui a confronté le prophète Élie. Alors, vous savez que même à cette époque-là, ça n'a pas été un roi fidèle. Fait que aucun de ces rois-là a été un bon roi. Ça a tous été des rois qui ont tous été infidèles à l'Éternel, qui ont été méchants, dont le cœur était mauvais. Finalement, il y a eu la dynastie de Jéhu. Et ça a été vraiment le plus proche d'une fidélité à l'Éternel qu'il y a eu. À cette époque-là, Jéhu, qu'est-ce qui était arrivé? C'est que l'Éternel lui avait dit, à cause de la méchanceté du roi Akab, je veux que tu ailles les frapper et tuer toute la famille. Et Jéhu a obéi avec un zèle particulier. Je pense qu'il appréciait le fait d'avoir eu le rôle de Dieu de devoir tuer une famille au complète. Et il l'a accompli. Par exemple, il a fait venir toutes les fils, filles de la famille de Akab, je pense particulièrement les fils, excusez-moi. Il s'est fait venir, il a dit, j'aimerais ça faire une fête en l'honneur de Baal, puis tout ça, fait invitez-les, tout ça, fait que tout le monde arrive, c'est comme, ah, mais c'est cool, tu sais. Puis là, Jéhu s'en va voir les gardes, il dit, là, si vous en laissez sortir un seul, je vais redemander de votre vie. Puis là, quand tout le monde était arrivé, là, il a dit « tuez-les tous ». Fait que vous voyez, il y a eu un zèle particulier de tuer tout le monde. Et à cause de ça, Dieu lui avait promis, ben tu auras environ 3 à 4 rois qui vont rester sur le trône, vu que tu as obéi à ma parole. Mais ça a été le plus proche d'une fidélité à l'Éternel qu'il y a eu parmi les rois des tribus du Nord. Alors, comme vous voyez, ça s'en allait d'empirant en empirant. C'est pour ça qu'ils n'ont pas toffé plus que 200 ans. Dieu les a punis. Alors, dans ce contexte-là, ayant eu ces 4 dynasties-là qui ont passé une après les autres, infidèles, le message d'Osée s'adresse d'abord à la dynastie de Jéhu, ce même homme-là qui a été fidèle à Dieu en accomplissant ce qu'il a demandé. Alors, en raison du sang versé par leur père à Jisréel, mais également à la nation d'Israël, le royaume du Nord, parce que celle-ci s'est prostituée en allant vers des idoles. La prostitution, Dieu utilise l'idée d'une prostitution, non seulement parce qu'il le faisait physiquement, mais il veut montrer combien est-ce que il ramène l'idée que le mariage est vraiment une idée entre l'union entre Dieu et son peuple. Le mariage, c'est pas juste l'union d'un homme et d'une femme, mais c'est l'union de vraiment, ça symbolise l'union de Dieu et de son peuple. Et Dieu dit, moi, je vais être fidèle à toi, reste fidèle à moi. Et quand les hommes s'en vont vers des idoles, Dieu appelle ça une prostitution spirituelle. Et c'est exactement ça. Il utilise encore l'image du mariage pour souligner cette prostitution spirituelle. Alors, cette période de l'histoire d'Israël était quand même relativement prospère économique et le peuple s'était retourné vers des dieux étrangers, entre autres Baal. Alors, le peuple s'étant détourné de l'Éternel parce qu'il croyait que cette prospérité était due à Baal plutôt qu'à Dieu. Et là, il utilise vraiment une image, c'est fort quand même comme l'image du mariage, là. Imaginez, Dieu utilise l'image et il dit, imagine que tu as pris avec toi une femme, tu l'as épousée, tu as eu des enfants avec cette femme-là, puis à un moment donné, tu lui fais du bien, tu sais, tu lui donnes des cadeaux, puis tout ça, puis à un moment donné, cette femme-là décide qu'elle s'en va. Elle te laisse une lettre, puis dans cette lettre-là, elle te dit genre, ben j'ai vu que tous les hommes, tu sais, elle parle de tel homme, elle dit, hey, comment il est gentil, puis tout ça, puis c'est pour ça qu'elle a quitté cet homme-là. Puis là, elle leur dit, mais il me fait tellement des cadeaux, il me fait tellement du bien, puis tout ça, quand dans le fond, les cadeaux, c'était le mari qui les avait faits. Fait que pouvez-vous imaginer, c'est comme ça que Dieu montre l'infidélité d'Israël. C'est comme ça qu'il la manifeste. Il leur dit, je vous fais des cadeaux, puis plutôt que de me remercier pour ces cadeaux-là ou juste de reconnaître que ces cadeaux-là viennent de moi, vous attribuez ces cadeaux-là à Baal, aux autres dieux. Dieu condamne la nation d'Israël parce qu'elle s'est prostituée et qu'elle a abandonné son Dieu. Le jugement de Dieu se manifeste par la destruction d'Israël et la déportation en Assyrie, lesquelles sont annoncées dans Osée. Finalement, le peuple d'Israël sera vraiment déporté. Et ça l'a causé vraiment une destruction de certaines tribus d'Israël qui vont être permanentes. Alors, le message d'Osée, je vous en parle déjà au fur et à mesure à l'intérieur, mais le message d'Osée, le péché du peuple est semblable à un adultère. Alors, je vous en parle depuis tantôt. Osée utilise une image très puissante pour démontrer comment Dieu voit le peuple qui se détourne de lui pour pécher. C'est l'image du mariage qui est présentée dans les chapitres 1 à 3. Pour Dieu, lorsque son peuple se détourne de lui, ce peuple est adultère, comme je l'ai montré, où ce que l'adultère, c'est pas un adultère physique, mais bien un adultère spirituel. Alors, regardons ensemble Osée 1, 2. Je l'ai déjà lu tantôt. Mais on peut continuer à lire cette section-là, juste vous lire la suite du chapitre 1. L'Éternel dit à Osée, « Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Il alla prendre Gomère, fille de Diblaïm, et elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, « Appelle-le Jisréel, car encore un peu de temps, et j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Jisréel. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisréel. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, « Appelle-la Lo-Ruhama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo-Ruhama, puis elle devint enceinte et mit au monde un fils. L'Éternel dit, appelle-le Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je ne suis pas votre Dieu. Parole très forte pour montrer comment Dieu est comme... Il dit là, vous agissez plus comme mon peuple, je suis plus votre Dieu. Puis il met même en contraste la fidélité de Juda, contrairement à celle d'Israël, à celle de la nation d'en haut qui était représentée par Éphraïm. Et au chapitre 3, ce que je vais vous lire, simplement 5 versets, c'est alors la femme d'Osée le quitter. Et là, Osée, l'Éternel lui dit, « L'Éternel m'a dit, « Va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors qu'eux, ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 litres d'orge. Je lui ai dit, « Tu resteras longtemps à moi, sans te livrer à la prostitution, ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de même envers toi. » L'amour de Dieu fort, malgré l'adultère. La relation entre Dieu et son peuple sera représentée par la relation d'Osée avec la femme qu'il épousera. Vous pourrez lire dans les chapitres 1 à 3 comment la relation entre Osée et son épouse reflète la relation de Dieu avec son peuple. Alors, en raison de son péché, l'Éternel rejette Israël. Par la naissance d'un enfant à Osée, son épouse, Dieu annonce qu'il repousse son peuple. Alors, le nom Lo-Ami, comme on le lit au chapitre 1, signifie « pas mon peuple ». À cause de l'adultère d'Israël, Dieu ne considère plus Israël comme son peuple et détourne sa face de lui. Pensez-vous que ça s'applique encore aujourd'hui? Pensez-vous qu'encore aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas adultère parfois envers Dieu? Est-ce que notre allégeance, est-ce qu'elle est toujours envers Dieu ou envers des idoles? Quand on regarde le succès qu'on a, par exemple, est-ce qu'on attribue ça à simplement nos forces, simplement nos talents? Simplement nos capacités? Ou est-ce qu'on les attribue aussi à Dieu qui nous a donné ses talents, ses capacités? Quand quelque chose va mal, quand quelque chose ne va pas bien, vers quoi est-ce qu'on se tourne? Est-ce qu'on se tourne vers Dieu et ses promesses, le fait qu'il continue à nous poursuivre, qu'il a promis qu'il serait avec nous? Ou est-ce qu'on se tourne vers quelque chose qui va être relaxant en premier? Vers quelqu'un, parce qu'on a l'impression qu'il est plus tangible. Fait que vers quoi est-ce qu'on se retourne? Le cœur adultère ne se limite pas à Israël à cette époque-là, mais le cœur adultère, on le porte encore en nous. Ce qui est incroyable, c'est que dans Osée, chapitre 2, verset 19, il déclare une promesse qui est encore bonne pour aujourd'hui, ce qu'il dit, « J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, les noms de vos idoles, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms. » Verset 21, « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté, la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. » C'est drôle, ce texte-là me parle particulièrement les fiançailles, parce qu'en fait, je me suis fiancé hier. Alors, les fiançailles, c'est un symbole tellement fort de dire « je vais me donner à toi complètement. Je vais me donner à toi, je vais me limiter simplement à toi, je vais t'aimer seulement toi et il n'y en aura pas d'autre dans ma vie. » Et de la même manière, malgré notre cœur adultère, malgré le fait qu'on est loin d'être parfait et d'être fidèle à Dieu constamment, c'est incroyable comment est-ce que Dieu continue de nous poursuivre. Continue de nous aimer puis de dire genre je vais m'unir à toi, je vais te fiancer à moi par la justice, la droiture, la bonté, la compassion. Continue de nous faire grandir. Et juste déjà là, je pense que c'est déjà quelque chose, on peut déjà louer l'Éternel et c'est une leçon qu'on peut apprendre d'oser. Et c'est justement Dieu ne rejette pas pour toujours, c'est le deuxième point. Deuxième application. Comme nous l'avons vu dans notre survol des autres prophètes, Dieu ne rejette pas à toujours. Il est un Dieu de grâce, de miséricorde et de compassion qui annonce qu'après avoir jugé Israël pour son péché, il lui fera grâce en ramenant son peuple à lui. Nous voyons cela dans Osée 2, 16 à 25, un texte qui sera réutilisé par Paul plus tard pour parler de comment est-ce que Dieu, justement, a décidé de prendre ceux qui ne faisaient pas partie de son peuple et d'en faire son peuple. Ce texte d'Osée était l'annonce que le salut serait aussi annoncé aux païens, comme nous le voyons dans Romains 9, 24, 26. Fait que juste le lire, c'est dans Romains 9, mais c'est pratiquement le texte d'Osée 2, 16 à 25. « Aussi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés les fils du Dieu vivant. » Combien d'entre vous se souviennent comment est-ce qu'ils étaient avant de connaître Jésus-Christ, avant de connaître l'amour de Dieu? Hein? Combien d'entre vous, est-ce qu'il y en a certains qui s'en souviennent? Qui se souviennent? Je vous le souhaite, là. Se souvenir de comment est-ce que sans Dieu, on avait, Paul le Manet le décrit dans le Nouveau Testament, il dit, vous étiez sans Dieu, sans alliance, sans Messie, sans Sauveur. Il essaie de montrer comment est-ce que on était loin, loin, loin de Dieu. Pourtant, Dieu ne rejette pas, puis il dit non. Ceux qui étaient même pas, qui n'allaient même pas être appelés mon peuple, je vais les appeler mon peuple. Ceux qui n'étaient pas bien-aimés, je vais les appeler mon bien-aimé. Ça, c'est une promesse extraordinaire. Un autre thème peut-être que ce ne sera pas dans vos notes, mais je veux simplement en rajouter pour vous, c'est l'idée d'être choisi par grâce. Pourquoi est-ce que Osée, sur quelle base est-ce que Osée s'est marié avec cette femme-là et qui représente très bien la relation que Dieu a avec elle? Est-ce qu'il s'est marié parce que, justement, c'était une femme vertueuse, particulièrement riche? Est-ce qu'elle était particulièrement belle? C'est pas décrit. Elle devait être un peu maganée si c'était une prostituée. Alors, est-ce qu'il l'a choisi à cause qu'elle avait un charisme particulier? Ou en fait, il l'a juste choisi parce que, simplement, Dieu a dit, « Engage-toi à elle, aime-la. » Ça change vraiment notre perspective de l'amour. Moi, c'est de cette manière-là que je me suis converti, c'est que je croyais que l'amour, tu la donnais simplement quand quelqu'un en valait la peine. Et moi-même, j'essayais d'en valoir la peine constamment. Mais ça, c'est tout un fardeau de se dire, genre, hey, faut que les gens y m'aiment, donc je dois avoir un certain charisme, je dois être pas pire, je dois être quand même, je dois paraître un petit peu correct, intelligent, tout ça. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça qu'il nous choisit. Le mariage de Osée avec Gomer illustre une grande vérité. Dieu n'a pas choisi Israël pour ses mérites. N'importe quel croyant, de quelque nation et génération que ce soit, est redevable de la seule grâce de l'Éternel. Dans Osée 13, 4, il dit, « Il n'y a de sauveur que moi. » Un autre message, peut-être, que ça, on peut, maintenant qu'on a été sauvé par grâce, qu'on peut apprendre envers les gens, il y a une phrase célèbre que Jésus reprend et qui vient d'Osée. Quand les pharisiens viennent voir Jésus, puis il dit, genre, comment ça se fait que tu tiens avec les gens de mauvaise vie? Comment ça se fait que tu tiens avec ces gens-là, là, que de toute façon impure, là, tu devrais même pas t'approcher d'eux autres? Puis Jésus leur répond une parole. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » C'est une parole directe d'Osée, ça, qui reprend, dans Osée 6, 6, où ce que Jésus dit, je ne suis pas venu pour appeler des justes, je suis venu pour appeler des gens malades. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, à nous? Est-ce qu'une église va être constituée simplement de gens qui vont bien? Est-ce que, un prédicateur a dit, est-ce que l'église, c'est un musée pour les saints? Un musée où on affiche notre sainteté devant les autres? Ou est-ce qu'en fait, on ressemble plus à un hôpital pour les malades, où ce que les gens peuvent venir voir le grand médecin qui est Jésus. Alors, c'est pas grave s'il y en a qui sont malade, si vous êtes magané, vous n'avez pas à afficher un visage joyeux si vous n'êtes pas joyeux aujourd'hui. Vous n'avez pas à afficher un visage contenté si vous ne vous sentez pas contenté. On chante le chant « Tel que je suis, je viens à toi ». Et on a de la misère, et moi le premier, on a de la misère à s'afficher réellement comme on est devant Dieu. Parce qu'on a honte, on veut afficher un bon visage. Et c'est normal, on veut bien paraître, tout ça. Mais Dieu nous prend tel que l'on est, des malades qui ont besoin de grâce. Alors ça, c'est une tellement belle vérité. Fait que, comme j'avais dit, le cours allait être un petit peu plus court. Alors, j'ai déjà passé au travers de Osée. Qu'est-ce que vous diriez, je voudrais vous proposer, qu'est-ce que vous diriez si ensemble on pourrait prier puis remercier Dieu pour cette grâce-là qu'il nous a faite? Fait que, juste, je vais vous laisser libre de prier, libre de simplement, penser à cette image-là du mariage. Vous avez vu des mariages, vous êtes peut-être marié vous-même. Pensez à ça et regardez comment est-ce qu'on est infidèle dans notre cœur, mais comment est-ce que Dieu continue quand même de nous poursuivre et de nous aimer. Faisons juste le louer pour ce qu'il a fait en Jésus-Christ, déjà. Fait que je vais nous laisser dans la prière. Tellement une grande fidélité au Dieu. Combien est-ce que souvent, nous autres, on est impatients, infidèles. Seigneur, quelle joie quand tu viens nous dire « c'est pas grave, je t'aime quand même, reviens à moi ». Quelle joie. Quelle joie que même dans Osée, tu avais annoncé qu'un jour tu allais complètement enlever les idoles, qu'on n'en s'en souviendrait même plus. Et que, Seigneur, le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix, le jour où il est ressuscité, c'était vraiment le jour de nos fiançailles. Quand on a cru en lui, on s'est uni à lui pour toujours. Et on attend simplement le retour de notre époux qui va revenir nous chercher. Et ça va être un grand moment de joie. Ça va être un mariage comme on n'en a jamais vu. Si certains ici, Seigneur, ont vu des mariages extraordinaires, ils n'ont encore pas vu un vrai mariage. Tu nous en as donné un exemple juste en changeant l'eau en vin, où est-ce que tu as transformé une fête gâchée en une fête extraordinaire. Alors, on a hâte que tu reviennes, Seigneur Jésus, puis que tu fasses complètement notre joie. Merci, Seigneur Jésus. Amen.